La première vague, la COVID, a provoqué une véritable hécatombe dans les CHSLD du Québec. 4 000 décès, 10 % de tous les résidents, résidentes des CHSLD. Et là, il y a un groupe de professionnels de la santé. J'ai parlé tout à l'heure de médecins, mais il y a des infirmières, il y a toutes sortes de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui lancent un appel. On va aller rejoindre le porte-parole du collectif Action COVID, le Dr Réjean Hébert, ancien ministre de la Santé. Bonjour, Réjean.
Bonjour, Bernard.
Écoute, tu parles d'angicide. Tu dis 4 000 morts, c'est un mot très, très fort, angicide. On parle de génocide, là, on parle d'angicide.
Ben écoute, lorsque 10 % c'est important, là, 10 % de la population des CHSLD décède, moi, je qualifie ça d'un angicide ou d'un gérontocide, là, appelons-le comme on veut. Mais écoute, c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé dans le reste du Canada. La seule province où il y a eu un peu plus que 2 % c'est l'Ontario, puis on est 5 fois plus élevé que l'Ontario. Alors, il y a eu une catastrophe au Québec, une hécatombe que je qualifie d'angicide carrément, parce que ça a touché essentiellement les personnes âgées et celles qui vivent en CHSLD, donc qui sont les plus vulnérables de notre société.
Et là, vous proposez des moyens très concrets pour éviter ça à nouveau. Donne-nous les trois moyens concrets, là, les trois façons les plus importantes, les plus prioritaires pour éviter que ça se reproduise dans la deuxième vague.
Alors, il faut que les gestionnaires, puis il y en a une nommée, là, c'est pas complété, mais qu'il y ait un gestionnaire, puis un cadre supérieur, non, on veut pas un cadre intermédiaire ou un cadre clinique, un gestionnaire, un cadre supérieur qui soit responsable et imputable dans chacun des CHSLD. Ça veut dire qu'il peut prendre des décisions. Il n'y a pas besoin de remonter les 5 échelons hiérarchiques là, jusqu'au PDG et que ça redescende après pour être capable de faire des changements dans le CHSLD. Alors, ça, c'est la première condition et c'est une gestion locale de la crise. C'est absolument essentiel. 2, éliminer la mobilité du personnel. C'est ce que la Colombie-Britannique a fait. Dès le début de la pandémie, ils ont interdit toute mobilité et ils ont même compensé les travailleurs qui avaient besoin de joindre les deux bouts avec plusieurs emplois à temps partiel. Ils ont compensé les travailleurs qui avaient des pertes financières dues à ça et eux, ils ont eu en bas de 1 % de décès dans leur CHSLD. Alors, ça veut dire de limiter l'introduction des agences de placement là, qui envoient du personnel de temps à autre, les équipes volantes, puis ce genre de choses-là qui se passent encore, parce que c'est là où on introduit dans le CHSLD le virus. C'est pas les résidents des CHSLD là, qui transmettent le virus. Ça vient de l'extérieur, ça vient du personnel. Et ça, c'est absolument important de pouvoir éviter ça, éviter la mobilité. Quand il y a un changement de personnel, ben il faut les tester avant pour être sûr qu'ils sont négatifs, avant de les envoyer. Okay. Tester régulièrement le personnel. On voit que ça passe de 10 à 40% maximum. Le dépistage du personnel dans les CHSLD, c'est pas assez. Il faut avoir des dépistages réguliers parce que c'est les membres du personnel asymptomatiques qui ont la COVID, qui la portent et qui la répandent dans les CHSLD. Alors, il faut absolument être capable de stopper ça.
Bon, Réjean, je veux revenir sur votre deuxième proposition, limiter le déplacement. Comment tu réagis, et je te tutoie parce qu'on a été collègues, évidemment, dans le même gouvernement, là, on fera pas semblant, mais comment tu fais pour ne pas être pris avec des déplacements quand tu sais que tu n'as pas assez d'infirmières? C'est ça que Dubé nous dit. Le ministre Dubé nous dit, j'ai engagé des préposés bénéficiaires cet été, je devrais être correct pour les attacher à un CHSLD, mais j'ai pas assez d'infirmières auxiliaires, j'ai pas le choix que de les obliger à se promener d'un CHSLD à l'autre, sinon je vais en manquer. Tu réponds quoi à ça?
Ben moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Je pense qu'il y a des infirmières qui pourraient être déplacées de l'hôpital, par exemple, pour aller en CHSLD. C'est là où est la menace. Là, c'est pas à l'hôpital. Là, la menace sur l'hôpital, elle est beaucoup moindre, puis même en première vague, beaucoup moindre que ce qu'on anticipait. La menace, elle est dans les CHSLD. C'est là qu'il faut prioriser. C'est là qu'il faut concentrer l'encadrement médical, puis l'encadrement infirmier aussi. Alors, il faut absolument être capable de faire en sorte que les infirmières restent dans le même milieu, qu'on les emploie à temps plein dans ce milieu-là et qu'ils ne fassent pas plus d'un CHSLD par jour ou par semaine. Le concept des équipes volantes, là, ça ne marche pas en temps de pandémie. Il faut complètement éliminer ça parce que c'est un vecteur de propagation de la COVID.
Bon, vous voulez limiter le recours aux agences, mais comme tu le sais, les infirmières s'inscrivent dans les agences parce qu'ils n'en peuvent plus du temps supplémentaire obligatoire dans les hôpitaux. Est-ce que toi, là, t'es rendu au point où tu dis on devrait carrément soit interdire les agences, soit dire aux infirmières, si vous vous inscrivez dans les agences, vous ne travaillerez plus, les hôpitaux ne vous appelleront plus, pour obliger les infirmières à devenir employées dans les établissements de santé, à être attachées, salariées dans les établissements de santé?
Ben écoute, Bernard, quand on était au gouvernement, notre stratégie, notre orientation, c'était d'éliminer les agences de placement dans les établissements publics. On a fait de grands progrès là-dessus. Malheureusement, au cours des 5 dernières années, ça s'est détérioré. Il y a un retour des agences de placement, même des contrats avec le privé pour des soins à domicile, par exemple. Alors, ça, c'est désastreux. Je pense qu'on se tire dans le pied quand on fait ça, parce qu'on permet que des agences recrutent nos propres infirmières, ce qui augmente la pénurie et donc augmente le besoin d'utiliser les agences. Je pense que c'est une mauvaise stratégie qu'on a eue au cours des 5 dernières années. On récolte ce qu'on a semé. Okay. Mais là, il faut arrêter ça, là, parce que les agences vont continuer à recruter des infirmières dans le réseau public, puis on en a besoin, les infirmières dans le réseau public. Mais ça cache quelque chose aussi. C'est que les conditions de travail de nos infirmières, là, ils sont pas optimales. Ils sont sortis la FIC là, pour parler de leurs conditions de travail, puis je suis assez sympathique avec elles. Quand on compare la rémunération de nos infirmières avec celle de l'Ontario, il y a un déficit important.
Bon.
Quand on compare les temps complets des infirmières avec l'Ontario, on a beaucoup moins de temps complet chez les infirmières, et ça, il faut régler ce problème-là.
Si tu permets, Régent Hébert, Luc Lavoie nous rejoint maintenant. Luc, oui. Question, bonjour, commentaire, Luc. Vas-y.
Mais comment ça se fait qu'on n'a pas compris cette leçon très, très, très élémentaire qui est, vous l'avez dit tantôt, Dr. Hébert, ça vient de l'extérieur, ça rentre dans le CHSLD, puis c'est en train d'arriver. Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de contrôler ça? Ça m'échappe.
Bien, je pense que le gouvernement, il y a eu deux rapports d'enquête. Là. C'est intéressant de les regarder, là, le rapport à Sainte-Dorothée, CHSLD, puis CHSLD Aaron. Deux rapports extrêmement intéressants. Il y en a un dans le CHSLD public qui dit un des principaux problèmes, c'est qu'il y a 5 niveaux hiérarchiques entre le dirigeant d'un CIS ou d'un CIUS et les gestionnaires qui sont sur le terrain. Alors, ça, là, c'est une structure hiérarchique qui fait pas de bon sens en temps normal, puis qui fait encore moins de bon sens en situation de crise. Le ministre ou la ministre Blais, qui a sorti son plan d'action gouvernemental pour la deuxième vague, c'est intéressant ce qu'il y a là-dedans. Le problème, c'est qu'il n'est pas mis en œuvre de façon complète.
Alors, mais là, ils disent qu'ils ont réglé le problème, Régent, là. Ils disent qu'ils ont nommé un ou une gestionnaire par CHSLD.
Mais ça change écoute, pas le nombre de paliers, Bernard, de hiérarchie.
Mais c'est pour ça que tu dis, Régent, il faut que le gestionnaire ou la gestionnaire ait de véritables pouvoirs.
Exactement. Il faut qu'il soit capable de prendre des décisions localement pour faire face à l'organisation du personnel qu'il y a. S'il faut qu'à chaque fois qu'il engage une infirmière, il soit obligé de passer par la direction des ressources humaines du CIS, du CIUS, qui va faire des entrevues, qui va afficher, puis tout ça. Écoute, ça marche pas là, en situation de crise. Il faut avoir des processus beaucoup plus rapides.
Là, j'ai des auditeurs, juste avant de se laisser, gens qui disent ça n'a pas de bon sens de prendre des infirmières des hôpitaux et les envoyer dans un CHSLD, parce qu'à ce moment-là, c'est les personnes qui ont des cancers, par exemple, qui vont être retardées. On va repousser les traitements et tout le reste. Tu réponds quoi à ça?
Bien, on est en situation de pandémie, là. Il y a du monde qui meurt dans les CHSLD, c'est ça que je réponds. Alors, il ne faut pas faire de l'agisme non plus et dire que la vie d'une personne âgée est plus importante que la vie d'une personne plus jeune. On a à s'occuper de la vie, de la survie de citoyens au Québec, okay. Et il faut aller là où les besoins sont les plus pressants. Écoutez, je pense que c'est important qu'on puisse sauver les résidents des CHSLD, sinon l'agicide va continuer et ça va être empreint en plus d'agisme qui fait en sorte qu'on va considérer les personnes âgées, celles qui sont plus vulnérables, comme étant des gens qu'on peut oublier puis qu'on peut laisser mourir dans des conditions absolument atroces. Alors ça, c'est pas une société. C'est pas la société dans laquelle moi je veux vivre.
Docteur Régent Hébert, porte-parole du collectif Action COVID. Merci.
Ça m'a fait plaisir, Bernard et Luc. Au revoir.
Luc, on se retrouve un peu plus tard pour parler de l'élection présidentielle. Et puis, évidemment, on va écouter le point de presse de François Legault à 13h. Il pourrait y avoir des commentaires qui seront faits sur la sortie de Régent Hébert et de son groupe. On en reparle dans un instant.
Tantôt.
On s'en va à la pause. Au retour, Marie-Maude Denis, journaliste qui vient nous parler d'un des chefs de la mafia, qui est aussi avocat et qui se sert de son statut d'avocat pour échapper à la justice.